9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran est ravi, mes chers camarades, de vous retrouver pour une petite heure de droit. Nous allons, durant ce court moment, faire un jeu de questions-réponses pour toute votre tracasserie administrative ou judiciaire. Et pour certains d'entre vous, la réponse qui sera apportée sera peut-être insuffisante, faute de temps. Vous aurez toujours la possibilité de me joindre directement à partir de midi sur mon portable, dont le numéro vous sera communiqué au cours de l'émission. Bon. Vous connaissez le principe de cette émission, avant de répondre à vos questions et d'évoquer un sujet de droit. Et aujourd'hui, on parlera de la réglementation concernant les trottinettes électriques. Vous savez, ces engins qui pourrissent la vie des automobilistes, comme les cyclistes d'ailleurs, mon cher Philippe. Mais avant tout ça, donc, nous évoquerons l'actualité de la semaine. Et je souhaitais d'abord parler d'une actualité festive, la consécration de Karim Benzema, Ballon d'Or, meilleur joueur au monde qui évolue au sein de la meilleure équipe au monde, le Real Madrid. Un titre largement mérité, et puis on en avait un peu marre du classique duo Messi-Ronaldo, certes méritant, parce que tu n'as pas le Ballon d'Or par hasard, mais quand tu l'as déjà reçu 7 fois pour l'un et 5 fois pour l'autre, on peut peut-être s'intéresser à d'autres joueuses. Joueurs, citons également, la joueuse, voilà,
oui,
c'est pour
parce
ça.
Parce qu'il y a une joueuse. Aussi
voilà, citons également, bien sûr, la joueuse Alexia Putellas Segura, qui est de nationalité espagnole et qui a obtenu le Ballon d'Or féminin.
Mais laissons, c'est. Fois, non
pour
la deuxième fois, non.
Ah, il me semble pas.
Non, c'est la première fois.
Ouais. Okay. Sous toute réserve, comme on dit. Mais laissons ces considérations sportives pour évoquer l'horreur de la semaine. Eh oui, le crime de cette enfant, Lola, une enfant de 12 ans, une responsable présumée de 24 ans, de nationalité algérienne, en situation irrégulière, visée par une obligation de quitter le territoire. Vous vous souvenez probablement que ce sujet avait été évoqué dans cette émission il y a peu de temps. Et la question qui s'est posée toute la semaine, et surtout par des personnes de droite et d'extrême droite, et si seulement l'obligation de quitter le territoire avait été exécutée, cet enfant serait encore vivante. On a donc péroré toute la semaine, et on va pérorer longuement sur l'exécution, ou plutôt la non-exécution de l'OQTF, sur cette présence des étrangers qui, pour certains, devient étouffante. Le risque, évidemment, étant de considérer que tous les étrangers, et en particulier ceux qui sont visés par des OQTF, soient considérés comme des délinquants en puissance. Je peux pourtant témoigner.
Moi
qui défends les étrangers depuis des années, que les clients que j'ai croisés sont certes en situation irrégulière, mais pas des délinquants. Ce sont des travailleurs, des bosseurs, et dans des conditions pas simple, car ils sont souvent exploités. Normal, t'as pas de papier, alors tu subis. Si t'es pas content, tu dégages. D'ailleurs, ces personnes sont souvent exploitées par des personnes de même nationalité qu'elles. Eh oui, l'homme est un loup pour l'homme, dit-on. Et enfin, je finirai par la phrase idiote de la semaine du prof de mon fils, 9 ans. Encore qu'une phrase idiote de la part d'un prof, c'est souvent un pléonasme. On lui demande de venir avec un masque pour le dernier jour, pour Halloween. Il part le matin avec un masque de clown, un peu effrayant, je dois reconnaître. On lui dit non, ça c'est pas possible, ça fait trop peur. Je peux le concevoir, même moi, je me suis dit que ce masque pouvait faire peur aux gamins les plus jeunes. L'après-midi, il y retourne avec un masque Anonymous. Et là, le prof lui dit non, ça c'est pas possible, le masque, il cache ton visage. Bon, comprenne qui pourra. Je vous l'ai dit, une phrase aussi idiote que ça, c'est la phrase d'un prof et c'est souvent un pléonasme. Alors que vous soyez amateur d'Halloween ou pas, appelez le 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui porte le masque de Zorro, Don Diego Felipe Robichon. À vous, maestro.
Et d'ailleurs, votre masque me fait assez peur, maître Serran. C'est le masque de quoi que vous avez?
J'ai un masque là.
Ouais.
Carrément.
Ouais.
Non mais. D'ailleurs, j'ai vu que ce phénomène d'Halloween, il commençait à prendre un peu dans les écoles.
Oh non, ça fait un moment que ça prend.
Ouais, mais bon, enfin, dans les rues, on voyait pas tant que ça. Maintenant que les profs demandent, enfin, le prof, sauf les profs idiots, qui vous demandent de venir masquer, mais il faut qu'on puisse voir votre visage, j'ai un peu de mal à comprendre.
Bien, alors on va parler, je sais pas qu'est-ce qui vous a inspiré ce sujet des trottinettes électriques. D'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, ouais. C'est pas des trottinettes non électriques, et vous parliez du vélo, parce qu'effectivement ces trottinettes électriques sont juridiquement considérées comme un vélo.
D'abord, pourquoi j'en parle? Parce que les trottinettes électriques me sortent par les trous de nez. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je crois qu'on va faire un strike, et quand on est en voiture, il faudrait peut-être en percuter 3 ou 4. Je plaisante évidemment, mais il m'arrive parfois d'être excédé par les par les utilisateurs de trottinettes électriques. Alors c'est considéré comme un véhicule. C'est considéré comme un véhicule. Alors il y a les trottinettes électriques, il y a ce qu'on appelle les overboards, il y a les gyropodes, vous savez, le truc.
On appelle ça les nouveaux véhicules électriques individuels.
Voilà, oui, c'est ça.
Les NVEI.
Voilà, exactement. Et bon, on a bien vu, mais ça c'est normal, la loi est toujours en retard par rapport à des phénomènes de société, donc ça s'est multiplié à une vitesse grand V, et puis aujourd'hui, vous êtes harcelé, je crois que c'est le bon terme, de véhicules de cette nature et de ces fameuses trottinettes électriques. Alors d'abord, il y a une réglementation, mais une réglementation qui a priori n'est pas forcément respectée, puisque une trottinette électrique, officiellement, c'est minimum 6 km/h et maximum 25 km/h. Alors quand des fois vous êtes vous-même à 70 ou 80 et vous êtes doublé largement par l'utilisateur d'une trottinette électrique, on peut quand même s'interroger et se poser des questions, voir si c'est entre guillemets vraiment limité à 25 km/h. Bon, on sait que c'est très souvent, en tout cas pour certains, débridé. Donc il faut savoir que si vous êtes contrôlé et que votre fameuse trottinette électrique est débridée, vous êtes passible d'une amende, et parfois quand la vitesse est largement excessive, ça pourrait être une confiscation. Mais les pouvoirs publics sont quand même assez conciliants avec les utilisateurs de... Oh si, ils sont conciliants,
non.
Parce que... Alors écoutez, je ne vois pas beaucoup...
Non, c'est parce que vous n'êtes pas sur ce genre d'engin... Mais ça verbalise. Hein.
Ah ouais, bah écoutez, sais pas, mais bon, quand vous avez des voitures de flics qui sont devant, derrière vous, et que vous êtes doublé par des trottinettes électriques, je vois pas les types mettre leur gyro et puis aller les poursuivre. Ouais, je veux pas dénoncer ces délinquants-là. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est un peu gonflant. Donc je sais pas, moi je les trouve quand même relativement, franchement, hein, relativement laxistes. Bon, après, vous avez raison, peut-être que comme je ne suis pas utilisateur...
Ah non, parce que moi qui suis utilisateur de vélo et parfois de, comme vous appelez, des trottinettes électriques, non, alors les flics, ils verbalisent beaucoup plus qu'avant.
Ah ouais, bah écoutez, je sais pas.
Ils vous contrôlent beaucoup plus qu'avant. Et notamment, ils sont très vigilants sur le fait que vous circuliez sur le trottoir.
Alors, voilà, ça on y vient, c'est-à-dire que effectivement, il n'y a que la trottinette non électrique que vous pouvez utiliser sur le trottoir, et là vous êtes considéré comme un piéton, mais les trottinettes électriques, évidemment, sauf exception, c'est d'abord à utiliser sur des pistes cyclables, et puis s'il n'y a pas de pistes à dispo sur la route classique, mais évidemment le trottoir est à exclure, et on le voit. Je veux dire, là, c'est pas dénoncer pour dénoncer. C'est-à-dire que des utilisateurs de trottinettes électriques, ça se balade très souvent aussi sur les trottoirs. Et il y a eu une explosion des incidents et des accidents en la matière. Et quand vous êtes sur une trottinette électrique et que vous roulez à 30, 40, parfois plus kilomètres heure, si vous percutez quelqu'un, évidemment, il peut y avoir des dégâts d'abord pour le premier utilisateur, mais des dégâts sur l'autre. Et tout ça pour dire que ce qui est important, et là aussi je crois que la plupart des utilisateurs mettent ça de côté, se pose quand même, comme l'utilisateur d'un véhicule classique, se pose la question de l'assurance de votre trottinette électrique. J'ai dans mon entourage des utilisateurs de trottinettes électriques. J'ai d'ailleurs moi-même testé une trottinette électrique et j'ai laissé un bout de genou. Donc depuis, ça m'a dégoûté. Mais quand vous posez la question des formations du juriste qui ramènent tout au droit, c'est-à-dire quand je leur dis mais t'as une assurance particulière ou spécifique, c'est toujours l'étonnement.
Alors il y a deux choses. Il y a beaucoup de ces trottinettes sont louées. Donc en free floating, donc c'est des trottinettes que vous prenez dans la rue. Est-ce qu'une trottinette pour laquelle vous allez donc payer un abonnement d'une demi-heure, une heure, elle est assurée ou pas?
Alors c'est une vraie question, parce que d'abord Alors, elle est assurée, mais elle est assurée pour le loueur. C'est-à-dire que si elle est abîmée, si elle est volée, donc lui est assuré. Si vous renversez quelqu'un...
Donc là, il n'y a pas l'assurance.
Ah non, voilà. L'assurance de ces flottes ne couvre pas si demain vous percutez quelqu'un, s'il y a un blessé grave. Et on invite toujours, puisque les clauses des contrats varient en fonction également de la société qui loue ces trottinettes électriques. Alors, faut pas hésiter. Je sais que ce que je vais dire, de toute manière, sera suivi par personne, parce que personne ne le fait. J'allais dire, vous allez sur Internet, sur le site du loueur, et puis vous regardez quand même les conditions générales et particulières. Alors, qui fait ça? En général, on ne le fait pas, sauf s'il y a un litige, et à partir de ce moment-là, l'avocat s'y colle. Mais c'est quand même une précaution à prendre pour voir, entre guillemets, si vous êtes couvert ou pas, mais dans la majorité des cas... C'est l'assurance couvre évidemment le loueur, mais si vous percutez quelqu'un, vous n'êtes pas couvert. Donc il faut évidemment faire attention à ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en principe, on va laisser les flottes de trottinettes et évoquer la trottinette particulière. En principe, vous devez appeler votre compagnie d'assurance pour vous renseigner sur éventuellement ce qu'on appelle une extension de garantie, parce que si il vous arrive un accident, c'est le propre des compagnies d'assurance, on mettra toujours en avant l'aspect juridique pour dire, attendez, nous on couvre pas. Et si on couvre pas, il se passe quoi? Il se passe que la personne que vous avez blessée, parfois on a des personnes qui sont grièvement blessées, alors elle sera indemnisée, mais elle sera indemnisée par un fonds de garantie. Ça, c'est la loi. Donc cette personne blessée, son indemnisation va pas dépendre du fait que vous ayez volé la trottinette ou que vous soyez assuré ou pas, et heureusement. Donc il y a un système qui permet d'être indemnisé par le fonds de garantie. Mais le fonds de garantie va vouloir récupérer ses sous. Et récupérer ses sous, ça veut dire se retourner contre l'auteur de l'accident, donc se retourner contre vous. Et il est certain que quand on a un accident corporel, si vous avez des personnes qui ont besoin d'un traitement qui dure X temps, et ben ce sont des notes qui s'élèvent à beaucoup. Et puis si vous n'êtes pas assuré, la difficulté, c'est que, alors si vous travaillez, vous aurez des saisies sur salaire et autres. Ou alors si vous travaillez pas, on va attendre que vous vous mettiez à travailler, puisque ça, on finit toujours par le savoir. Et on va venir toquer à la porte. Donc, ça coûte rien, j'allais dire, en tout cas, ou pas grand chose quand même, de contacter votre compagnie d'assurance et de vous assurer. C'est honnêtement, le rapport qualité-prix, ça vaut quand même le coup. Quand on a une trottinette électrique, quand vous l'utilisez en particulier au quotidien, et puis beaucoup l'utilisent pour aller au boulot, ça vaut quand même le coup de contacter votre compagnie d'assurance et de vous assurer, parce que si vous arrive quoi que ce soit, vous êtes à ce moment-là évidemment bien content que la compagnie d'assurance prenne la relève.
Alors c'est quoi comme garantie, Maître Serran? Est-ce qu'une responsabilité civile suffirait?
Non, une responsabilité civile ne suffirait pas. C'est-à-dire que c'est là où on parle d'extension de garantie. C'est-à-dire que si vous avez une trottinette électrique, la simple responsabilité civile qui peut vous couvrir si vous êtes avec une trottinette classique. On va laisser le côté électrique. Bon, là, vous êtes considéré comme un piéton. Vous blessez quelqu'un, vous êtes couvert. Si vous blessez vous-même, vous n'êtes pas couvert. Là aussi, il faut voir en fonction des compagnies d'assurance. Mais si vous avez une trottinette électrique, la responsabilité civile qui est toujours liée, ou on va dire à 99% liée à votre assurance domicile, ne vous couvre pas. Donc c'est pour ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que, je le redis, on a l'impression que... C'est comme quand on est gamin et vous allez à l'école, on se dit, bon, on est assuré. Non, vous n'êtes pas complètement assuré. Donc, si vous avez une trottinette électrique, encore une fois, ça coûte rien de contacter votre compagnie d'assurance, de lui poser très clairement la question et d'attendre et de prendre en considération leur réponse. Vous aurez de facto une extension de garantie. Mais encore une fois, je le redis, rapport qualité-prix, ça vaut le coup, c'est pas excessif. Donc, il vaut mieux faire cet effort-là et pas attendre que le pire vous arrive.
Je regardais un article, il est interdit de porter des écouteurs sur des trottinettes électriques.
Alors, il est interdit. Alors,
qui le sait, ça?
Ben oui, il est interdit de porter des écouteurs, il est interdit d'avoir le téléphone portable en main. Alors, personne ne le sait, mais il faut savoir que même dans votre véhicule, quand vous êtes dans votre voiture et vous avez des écouteurs, ça aussi, c'est interdit. Donc vous pouvez être verbalisé par rapport à ça.
Alors, et le casque n'est pas obligatoire.
Sur la trottinette
électrique.
Non, il n'est pas, pas obligatoire. Alors, bon, je crois que ça ne devrait pas tarder. À la limite, on peut le comprendre. Parce que parfois, effectivement, ça peut-être quand même vous sauver la vie. Mais l'histoire des écouteurs, c'est vrai que c'est assez fascinant. Mais même dans votre voiture, un policier, je veux dire, qui serait zélé, mais à la limite, il fait son boulot, c'est la loi, qui vous voit avec des écouteurs. Vous êtes sur une trottinette électrique avec des écouteurs, on pourrait vous verbaliser pour ça.
Alors, tous les gens que je croise en trottinette électrique, ils ont tous des casques.
On l'entend et j'allais dire et on le comprend à la limite, mais même dans quand vous êtes en voiture. Mais c'est vrai que la loi est ainsi faite, donc faut faire attention à tout ça.
Bien, alors vous avez des questions juridiques à poser à Maître Serran. C'est très simple, vous allez composer le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Alors si vous êtes à trottinette, haguez votre casque, vous arrêtez, bien
vous
sûr.
Ne vous blessez pas.
Pour poser vos questions à Maître Serran.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, vous le savez que dans cette partie de l'émission, vous interrogez directement Maître Serran en composant le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Et c'est Zulira qui est avec nous. Bonjour Zulira.
Bonjour.
Bonjour. Alors voilà, approchez-vous de votre micro.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, bonjour Maître.
Bonjour Zulira.
Je vous ai posé deux questions.
Ouais. On vous écoute.
Zulira est ambitieuse.
Alors, la première question, mon époux étant décédé, et on a un compte commun. Et dans ce compte commun, la banque, comme on est commun, ils ont fait un compte individuel, c'est-à-dire qu'ils l'ont retiré, lui. Mais maintenant, je voudrais savoir, est-ce que ça rentre dans la succession?
Est-ce que ça rentre
parce
dans la...
Il a deux enfants,
ouais.
Et un village.
Mais pour l'instant, la question se pose pas, madame. La question se posera, cette histoire de succession, quand vous-même aurez quitté cette terre. C'est qui vous interroge là-dessus? Les enfants?
Non, pas du tout. Les enfants, ils sont même pas courants, parce que vous savez, ça fait plus de 35 ans qu'ils ne voient pas leur père.
D'accord.
Mais maintenant qu'il est décédé... Bon, l'appartement, je leur donne leur part, j'achète leur part, je leur donne. Par contre, moi, ce qui me tracasse, c'est le compte qu'on ait un compte commun.
Juste une question, vous dites, j'achète leur part, c'est-à-dire c'est une part de quoi? Vous avez un bien immobilier?
L'appartement, parce que moi,
d'accord.
Je reste dans l'appartement.
D'accord. Mais là, pour l'instant, entre guillemets, la question ne se pose pas. Après... mais là c'est pas du droit mais c'est de l'équité comme on dit, si vous considérez que puisque ce sont les enfants de monsieur et puis vous vous dites ben il y a tel montant qui pourrait leur revenir, il y a rien qui vous interdit de faire ce geste là mais au moment où on se parle il y a pas de texte qui pourrait vous l'imposer.
C'est-à-dire moi ce qui m'a le plus tracassé, maître, c'est que quand j'ai vu le notaire, elle m'a dit, on va prendre, à partir du jour où il est décédé, ça sera partagé. Alors moi, j'ai dit, mais madame, on est compte commun, et maintenant j'ai un compte individuel. Monsieur n'existe pas sur le compte. Alors moi, je comprends pas.
Non, encore une fois, je lui dis, une volonté de votre part, pourquoi pas, mais si c'est une volonté de votre part, il n'y a pas de contrainte juridique. Mais à ce stade-là, il n'y a pas de disposition qui vous oblige à partager, entre guillemets, ce qui relève aujourd'hui de votre compte individuel.
Donc, maître, elle n'est pas obligée de se baser depuis le jour où il est décédé.
Non, alors faut se méfier. Alors, j'allais dire, faut se méfier des notaires, c'est peut-être pas non plus le bon terme, mais... Vous savez, les notaires posent des questions. C'est-à-dire, la question est simple en disant... alors, on peut pas, entre guillemets, cacher un bien immobilier, par définition.
Mais, le bien immobilier, ouais, c'est normal, parce que
voilà,
j'ai dit aux notaires,
c'est ce que, voilà.
Moi, vous calculez leur part, je leur donne, mais je reste dans l'appartement. Bon, il n'y a pas d'inconvénient sur ça, mais ce qui m'a le plus tracassé, maître, c'est quand elle m'a dit, oui, mais pour qu'il y a dans le compte, depuis le décès, ça sera partagé. J'ai dit, mais maître, c'est un compte commun. et la banque, elle a bien que je peux. C'est un compte, comment dire,
elle en a fait un compte individuel par la suite.
Voilà, la banque, elle a fait un compte individuel. Donc, je ne vois pas pourquoi vous me dites que vous allez, vous, à partir de son décès, faire le compte pour partager.
Eh bien, vous, vous.
Même s'il n'a pas grand-chose. Il n'a pas grand-chose.
Non, mais peu. Encore une fois, je veux dire, c'est entre nous, c'est même pas une histoire de montant. Après, quand il y a une règle de droit, il y a une règle de droit. Mais
ah oui, donc, oui, ouais, voilà. Non, mais maître, moi, j'aurais été d'accord si, par exemple, le compte c'est monsieur et madame. Là, je suis entièrement d'accord parce que, de toute façon, le compte aurait été bloqué. Mais là, c'est madame qui...
Mais on est tous les deux sur la même longueur d'onde, madame. Il n'y a pas de difficulté.
D'accord.
Donc il faudra simplement répéter ça au notaire qui en prendra acte.
Ok. La deuxième question, maître, c'est la question. Je l'ai noté, j'ai oublié. Bon, bah, de toute façon, je vous rappellerai parce que vous savez, maître, j'ai appelé plusieurs fois dans votre cabinet. Mais impossible de vous avoir.
Alors, il faudrait plutôt appeler sur mon numéro de portable. Il faut savoir qu'on a un problème éternel avec la ligne, la ligne fixe du cabinet. Mais si vous appelez, si vous me laissez un message, parce que souvent, vous avez des personnes qui appellent et qui ne laissent pas de message, donc, ou parfois en numéro masqué. Mettre... Mais oui. Si vous appelez sur le portable, il n'y a pas de difficulté. Vous me laissez le message.
D'accord, parce que maître, moi j'ai appelé au 01 42 43.
Oui, ben, vous comprenez que c'est pas un numéro de portable, ça, madame.
Et non, le numéro de portable, je l'ai pris parce que la dépêche
samedi passé,
j'avais donné au téléphone.
Voilà, donc on s'est dit la même chose depuis tout à l'heure. Voilà, n'appelez pas sur le fixe. Je vous dis, on a un éternel problème de ligne, quel que soit l'opérateur. Appelez plutôt sur le portable.
D'accord, parce que le portable, samedi passé, vous l'avez donné. 06 62 58 59 64, mais j'ai pas osé, maître. J'ai pas osé, j'ai dit je peux
mais
pas.
Mais non, mais madame, il y a pas il faut oser. Si voilà, si l'avocat se permet de donner son numéro, voilà, c'est pas ensuite pour dire écoutez, vous me dérangez sur mon numéro de portable. Donc faut pas hésiter, il y a pas de difficulté.
OK, d'accord. Alors la deuxième question que je voulais poser que là elle m'a échappé, je vous rappellerai, je vous la poserai.
Eh ben écoutez avec plaisir, il y a pas de problème.
Merci beaucoup, maître.
Merci à vous pour votre appel,
et Zubira. Et bonne journée.
Merci. Sophia est avec nous. Sophia, bienvenue. Sophia.
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui.
Oui, bonjour. J'aurais souhaité poser une question à maître Serin concernant la mutuelle employeur, s'il vous plaît.
C'est pas certain que je puisse vous apporter une réponse. Ouais, mais allez-y, posez la question au cas où.
D'accord. Alors, j'avais une mutuelle parce que ma société elle a été rachetée par une deuxième société. Quand j'étais dans la première, je payais 57 euros pour toute la famille et j'étais remboursée bien. Il y avait trois options. Il y avait la première, la deuxième, la troisième. J'avais pris option 2, ça remboursait très bien. La première année qu'on est passé avec la deuxième société, elle a continué avec la même mutuelle, les mêmes remboursements. Depuis le 31 août, ils nous ont demandé de choisir une autre option. Donc j'ai pris celle au-dessus. Sauf que je me rends compte aujourd'hui, mon employeur ne paye que 50% uniquement sur la basique, celle qui me prélève sur le bulletin de salaire. C'est-à-dire, il paye que 9 euros, moi je paye 180. C'est pas très compliqué.
D'accord. Et auparavant, ça se passait comment?
Auparavant, mon ancien employeur, il payait sur la famille. Il payait 50% sur la famille.
D'accord.
Et donc, je payais que 57 euros pour tout le monde. Il remboursait très très bien. Et celle-là, non seulement elle est beaucoup plus chère, parce que moi, apparemment, il rembourse sur moi rien, puisque ses anciens employeurs... Ils leur prélèvent sur leur bulletin de salaire que 18 euros. Moi, ils me prélèvent 27,42 euros sur le bulletin de salaire. Et sur mon compte bancaire, ils me prélèvent 53 pour les enfants, puisque apparemment, ils ne font pas partie de mon assurance qui prélève sur le bulletin de salaire. Et 105 euros parce que j'ai choisi une option. Et je voulais savoir, est-ce que c'est normal, un employeur ne prend pas en charge les enfants qui sont à ma charge?
Alors, le... Il faut savoir qu'en la matière, quand une société contracte une mutuelle destinée à ses employés, il n'y a pas une règle commune qui s'appliquerait à tous. C'est-à-dire que c'est comme vous, madame, en fonction des options que vous pouvez prendre concernant votre mutuelle, et ben la société a aussi des options. Alors, elle peut faire en sorte de couvrir, on va dire, intégralement ses salariés, mais elle peut décider aussi, là c'est un contrat entre la mutuelle et la société, elle peut décider d'opter pour telle ou telle option, ou alors de ne pas prendre telle ou telle option. Donc, juridiquement, c'est pas une faute de la part de la société, ce qui aurait été bien, mais il n'y a pas beaucoup de sociétés qui le font. Alors, lorsque les sociétés le font, il n'y a pas beaucoup de salariés, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui prennent le temps d'examiner les dispositions contractuelles. Mais ce qui aurait été bien, c'est peut-être d'expliquer un peu les options choisies ou pas de la part de la société.
Justement, là, j'ai appelé l'assurance, enfin, j'ai appelé la mutuelle pour qu'elle m'envoie le contrat. J'ai été voir UFC.
C'est bien.
Ils m'ont dit, ils vous font le contrat. Comme ça, vous savez à quoi ça correspond tout cet argent qu'on vous prenait et l'employeur, combien il paye. Eh bien, l'assurance, elle me dit, non, je vais rien vous envoyer, ce n'est pas à moi. Donc, il faut vous rapprocher de mon employeur. Est-ce que je peux exiger de mon employeur
Mais madame, vous pouvez évidemment... puisque c'est, encore une fois, vous êtes salarié de la société, vous pouvez évidemment demander à l'employeur de vous fournir le contrat pour, encore une fois, simplement vérifier si les conditions que vous êtes en train d'évoquer, si elles correspondent, entre guillemets, à la réalité des choses. Maintenant, je veux pas préjuger de ce qui apparaît sur le contrat et de ce qui a pu être pris par votre société. En règle générale, les sociétés s'amusent pas, pardon pour le terme, mais à bluffer leurs salariés. C'est-à-dire que...
Et pourtant, on ne paye pas le même montant. Parce que j'ai eu une élue, c'est l'élue de la société, donc je l'ai contactée. Et quand je lui dis, moi, combien on prélève sur le bulletin de salaire, elle me dit, c'est pas possible. Je lui dis, si, parce que moi, on m'a gardé le même montant sur mon bulletin de salaire que le premier employeur. Par contre, tous leurs salariés qu'ils avaient auparavant, ils ont baissé, ils leur prélèvent que 18 euros. Et que moi, je suis une ancienne, ils ont gardé le même montant, 27 euros.
D'accord, c'est-à-dire, il n'y aurait que vous dans toute la société qui serait concernée par ça ?
Moi, ceux qui ont été rachetés, tous les gens qui ont été rachetés.
Ah non, alors après, voilà, il y a quand même ce qu'on appelle un principe d'égalité, mais ouais, j'ai pas envie, entre guillemets, de jeter la pierre sur votre employeur. Ce serait pas sérieux de dire, entre guillemets, se comporte comme un escroc. Je le redis, il faut travailler sur pièce, et travailler sur pièce, c'est d'abord effectivement ce fameux contrat, voir un peu ce qui peut être dit. Maintenant, ça veut pas dire que des employeurs jouent pas les malins, mais j'ai pas été amené à croiser des sociétés qui, entre guillemets, tricheraient sur des contrats mutuels applicables à leurs salariés. Voilà, mais pour éviter de parler comme ça en l'air, oui, il vaut mieux travailler sur pièce, et la pièce maîtresse, c'est ce fameux contrat. Mais
d'accord.
Voilà, on va pas vous regarder de travers si vous demandez à votre société de vous fournir un exemplaire du contrat.
Et j'envoie ça à la DRH ou à qui je peux demander ce fameux contrat?
Ouais, enfin bon, à la limite, ou ouais, non, à ce stade-là, un courrier entre guillemets classique ou un mail, c'est la même chose, mais vaut mieux envoyer un mail pour des questions de rapidité, et puis même en pièce jointe aux uns et aux autres. Mais oui, par mail, c'est suffisant. Il y a pas, en droit on dit, de formalisme particulier, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'envoyer, je sais pas, une lettre recommandée à accusé de réception, ou un mail en particulier. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit informé et que vous puissiez prouver que vous avez demandé l'information. Donc le mail, c'est parfait à ce stade-là.
D'accord, ok, bah, je vais envoyer un email alors. Ok, je vous remercie beaucoup, maître. Bonne journée.
Merci à vous pour votre appel.
Merci, Sophia. D'autres questions à maître Serran? Dans un instant, je rappelle qu'à 10h, j'allais dire 11h, mais non, 10h. C'est à 10h qu'il arrive l'imam Abdelali Mamoun pour l'islam au présent. Et en attendant, 01 53 48 3000 pour vos questions juridiques à maître Serran. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Alors, on le dit jamais assez, mais c'est gratuit, hein. Vous pouvez poser vos questions gratuitement à Maître Serran. Alors, je pensais que le samedi, on allait faire payer Maître Serran, parce que vous êtes en week-end, évidemment. Ouais. Le tarif du week-end est toujours un petit peu plus élevé.
C'est vrai. Mais en plus, notre système est pas au point, mais on y travaille.
Vous avez un système?
Bah oui, un système où, on pourra se faire payer, et puis je partage avec la radio, et puis ça restera qu'entre nous, on va partager que tous les deux, on n'en parlera à personne. Voilà, on va faire ça. Ah bah oui, c'est vrai.
On a notre fournisseur de moutarde. Je veux dire que voilà, avant on avait des difficultés à trouver de la moutarde, mais il y avait de l'essence.
C'est vrai.
Maintenant il y a de la moutarde, mais il y a plus d'essence. Je crois que je préférais encore quand il y avait plus de moutarde, finalement, parce qu'on arrivait toujours à se procurer plus ou moins de la moutarde à des prix. Bon, voilà. Alors nous avons, c'est Nourdine qui est avec nous, c'est ça, Nourdine. Nourdine.
Oui, bonjour.
Bonjour Nourdine.
Oui, bonjour monsieur. Maître, s'il vous plaît, moi j'ai un problème avec la préfecture. Bon, j'ai rentré en 2012 avec un visa long séjour. Je me suis embauché dans une société avec un CDI. La préfecture m'a demandé que l'employeur qu'il te passe à la demande d'emploi. Je l'ai fait jusqu'à présent. Voilà, j'ai travaillé toutes mes années et j'ai changé la société. J'ai travaillé avec une autre société. Et j'ai commencé à changer ma carte de séjour chaque année. Et là, j'ai fait un changement de département. J'étais à Issy-les-Moulineaux, à Boulogne-Billancourt. Après, je vis à Paris 16e. Le mois dernier, j'ai déposé mon dossier pour renouveler ma carte de séjour. C'est la 7e. La préfecture, ils m'ont demandé que je parle avec l'employeur qui me fait une demande d'emploi. Et là, j'étais bloqué. Les sociétés ne veulent pas faire ça. Et là, je suis sans carte, je sans rien du tout, sans travail. Mais je suis en chômage.
Là, monsieur,
Qu'est-ce que je peux faire, monsieur ?
Voilà, là, quand vous avez travaillé, c'est-à-dire qu'il y a un formulaire qui porte le nom de formulaire CERFA, qui est rempli par l'employeur. Donc ça a été fait, puisque vous avez pu travailler.
Oui,
vous avez
ça
pu
a été
travailler.
Fait, monsieur, deux fois.
D'accord. OK.
Oui.
Et donc la question qui vous a été posée par la préfecture, on vous demande à ce que l'employeur fasse quoi ? Et il refasse le même
CERFA,
formulaire.
Voilà. Il me demande à la CERFA, qu'il demande...
D'accord.
Oui.
C'est un nouvel employeur.
Non, j'ai travaillé, c'est celui-là qui m'a appelé, j'ai travaillé avec lui en 2013.
D'accord, mais voilà, pas de manière continue. Ensuite, vous êtes revenu avec lui.
Oui, je suis revenu
avec lui. Voilà, donc c'est normal qu'il y ait un formulaire CERFA, et c'est l'employeur qui vous dit, moi je veux pas le faire.
Voilà, c'est ça, tout le monde. Voilà, j'ai trouvé pas mal de sociétés, quand je leur pose des questions, ils disent, bon, c'est très compliqué, c'est ça, et voilà, et j'ai tout ça. Ah, et j'ai le chômage. C'est ça le problème.
Il n'y a pas plus simple. Ils n'ont même pas de démarche particulière à faire pour obtenir le formulaire. Il est sur Internet, sur tous les sites des autorités préfectorales. Et puis, ça s'envoie par mail au service concerné. Et voilà, enfin, avec les pièces, et notamment parmi les pièces, c'est le contrat de travail. Donc, ce n'est pas surhumain que de présenter ça. Mais il n'y a pas, enfin, vous voyez, ce sont pas des démarches qui nécessiteraient de se balader partout. C'est très simple à faire. Et il est certain que, alors c'est quand même assez surprenant, puisque ça voudrait dire quoi? Il faut savoir que quand on fait ça, c'est officiellement pour dire que mon salarié, il est déclaré, et puis voilà, la société aura légitimement des cotisations à régler, et puis vous serez officiellement déclaré, donc tout est carré. Mais une société qui fait pas ça, on s'interroge, parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je vous prends, mais que je vous déclare pas au service administratif. Donc en gros, ce serait vous faire bosser au noir, hein. Ça veut dire ça si on va jusqu'au bout du raisonnement. Donc je sais pas quoi vous dire, c'est-à-dire que vous pouvez pas évidemment forcer un employeur à dire bah écoutez, moi vous me déclarez de obligatoirement, parce que sinon il va vous dire bah écoutez, bah vous partez, on passe à autre chose. Mais j'ai du mal à comprendre ce type de raisonnement.
La même chose, monsieur, la même chose, moi aussi, voilà. J'ai bossé, ça fait en 2012 que j'ai bossé, j'ai déjà cette déclaration.
Ouais.
Ça veut dire chaque fois qu'il faut la changer. La deuxième société, ils ont fait faillite. J'étais avec eux avec un CDI. Mais quand eux, ils ont fait faillite, ils m'ont arrêté, ils m'ont passé au chômage. Là, j'ai mon chômage et je sais pas ce que je vais faire. Il y a chaque société, ça veut dire, je vois trois sociétés, quand je leur demande ça, ils voulaient pas, ouais, je sais pas. Normalement, pour déclarer, ils me déclarent à l'URSSAF. Mais ils veulent pas faire ça.
Non,
voilà,
mais monsieur, être juste, entre guillemets, déclaré à l'URSSAF, en soi, ce sera pas suffisant compte tenu de votre situation.
Est-ce que c'est possible qu'un ouvrier qui est rentré pour travailler, ça fait longtemps que je travaille, la 7e fois que je change ma carte de séjour, est-ce que chaque fois il faut que je demande cette demande d'emploi?
Bah là, oui, mais moi, ce qui me surprend, c'est que, vous êtes de quelle nationalité, monsieur?
Marocain, monsieur.
Ah, d'accord.
Alors, j'ai toute ma famille ici, j'ai toutes mes parents, mes frères, ils sont tous la nationalité.
Ouais. Alors, mais le fait que votre carte ne soit pas une carte qui passe à 10 ans, c'est-à-dire, alors je ne dis pas que c'est légitime ou pas, mais ça signifie que les autorités préfectorales considèrent que votre dossier, entre guillemets, est un peu trop fragile pour pouvoir vous donner une carte de 10 ans tranquillement. C'est-à-dire que, mais si vous me dites que c'est ce que je crois comprendre, que vous changez régulièrement de boulot, c'est peut-être ce qui fait que la préfecture se dit c'est une situation un petit peu instable.
Moi, c'est pas moi, voilà. Mais je m'excuse.
Ah non, enfin, voilà, je dis pas que c'est. Voilà.
C'est eux qui ont travaillé.
Voilà, je dis pas que. Voilà, je dis pas que c'est vous qui faites en sorte que. Mais les employeurs que vous croisez entre guillemets ne vous aident pas à obtenir une carte, comme on dit, plus pérenne, une carte de 10 ans. Donc c'est aussi, ça reste une condition pour pouvoir, en tout cas, pour éviter d'obtenir tous les ans une carte d'un an, de refaire des démarches et tout, parce que c'est particulièrement pénible pour pas dire autre chose. Mais c'est vrai que là, on doit considérer que votre situation professionnelle est beaucoup trop fragile. Et pour répondre à votre question initiale, monsieur, entre guillemets, on peut pas forcer la main à une société. Alors, soit vous acceptez leurs conditions, mais vous serez, vous, ensuite en difficulté. Donc, il faut quand même, et je le redis, d'abord trouver une société qui fasse ce type de démarche. Mais je vois pas en quoi ce serait sincèrement aujourd'hui compliqué. Tout ça se fait via Internet.
Oui, c'est ça. Ils ont rentré là. Il dit qu'il a déjà rentré, mais il trouve des difficultés avec un code, avec ça. Il va rester 4 heures sur son ordinateur, il va perdre du temps. C'est ça ce qu'ils m'ont dit.
Ouais, j'entends bien, mais enfin, honnêtement, ce sont des bêtises. On est souvent en contact, justement, pour nos clients souvent le comptable, l'expert comptable qui s'occupe de ça, ou le directeur des ressources humaines. Mais enfin, voilà, quand les gens sont, comme on dit, de bonne foi. Oui. C'est, mais vraiment, non seulement c'est pas insurmontable, mais ça vous prend pas une demi-journée pour faire ça.
Voilà, c'est ça ce qu'ils disent, monsieur. Moi, je connais rien.
Ah,
j'ai
bah
pas
voilà,
le droit après, pour envoyer un emploi. Un ouvrier, il peut pas faire ça les démarches, mais c'est eux qui font ça. Ils disent,
non, mais de toute manière, oui, c'est à l'employeur de faire ça. De toute manière,
voilà,
que vous soyez ouvrier ou pas, c'est la société qui fait ça, c'est l'employeur. Mais malheureusement, monsieur, je crois que voilà, quand on vous dit ça, c'est plus pour vous pour se trouver une excuse, alors plus ou moins bidon, mais c'est une excuse qui est effectivement bidon. Si ils sont de bonne foi, ils peuvent faire cette démarche et je le redis, c'est pas insurmontable.
Oui,
mais vous pouvez pas leur forcer la main.
Et qu'est-ce que je fais maintenant là?
Ben voilà, je viens de répondre à cette question. Vous pouvez pas leur forcer la main. C'est ça le truc. C'est-à-dire que votre pouvoir s'arrête là. C'est-à-dire que si la société le fait pas volontairement, malheureusement, dont acte. C'est-à-dire que y a pas un moyen de dire je vais vous tordre le bras pour faire en sorte que juridiquement vous pouvez pas leur forcer la main.
Bien sûr, monsieur, voilà, je ne peux pas le forcer.
Non.
Voilà. Je suis doué, je suis un travailleur, j'ai fait même la société qui travaillait avec moi 3 ans. À 3 ans, j'étais un chef de chantier. Et voilà, je travaille, je suis impeccable. Voilà. Toutes les sociétés me connaissent. Mais quand on leur dit ça, voilà, ils reculent un petit peu, ils disent, bon, on n'a pas le temps de faire. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Sans papier, sans rien du tout, même le chômage s'est arrêté. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait 10 ans que je suis en France. C'est pas hier ou avant-hier.
Bah, il n'y a pas beaucoup d'options, monsieur. C'est-à-dire, si vous ne trouvez pas effectivement d'employeur, si vous ne trouvez pas une autre option pour changer de statut, à part, d'avrer de le dire comme ça, mais un retour au pays d'origine, juridiquement, il n'y a pas d'autre porte à ouvrir. Hein.
Maman, mais il y a 10 ans, ça fait la moitié de ma vie que j'ai exercé dans l'étranger, voilà, dans le sérieux, tout, voilà. À la fin, voilà, tout ça s'est passé à zéro. Comme si j'ai rien fait.
Ouais, c'est vrai que là, on est quand même dans des conditions humaines qui sont particulières, hein.
Bien sûr, monsieur.
Ouais, mais c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que vous avez effectivement des sociétés qui, pardon pour le terme qui est peut-être pas approprié, mais qui jouent pas le jeu, si tant est que ça puisse être un jeu, mais et qui profitent de telle ou telle situation. Mais vous concernant, monsieur, il y a pas 1000 options, parce que si au moment où on se parle, vous avez pas de papier, à un moment ou un autre, la probabilité d'être contrôlé, elle est quand même assez forte. Après, vous avez basculé dans un autre domaine. Donc, centre de rétention, obligation de quitter le territoire. Alors, c'est un risque que vous acceptez ou pas de courir.
Oui. Et là, j'ai fait de mon mieux. Voilà, maintenant, je suis en train de chercher si j'ai trouvé une société qui va faire de ces démarches-là. Je ne savais pas. Normalement, J'ai les impôts, j'écoute, je paye mes impôts, je paye tout. Je ne sais pas pourquoi tout ça, ça m'a bloqué devant moi. J'ai rien fait de mal, j'ai rien fait de mal.
Merci, bon. Nourdi, pour merci, en tout cas.
Très gentil de votre part et bon continuation.
Merci. Non, mais attends, d'abord, surtout, accrochez-vous. Oui. Et puis bon, il y a toujours des solutions, même au moment où on les voit pas. Donc
bien sûr, là, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait
exactement.
Voilà. Pas.
Faites de votre mieux et vous allez voir, il va y avoir une solution. C'est vrai que là, c'est vrai qu'aujourd'hui,
merci
c'est compliqué.
Beaucoup, très gentil de votre part et bonne continuation, monsieur.
Merci, Nourdi.
Merci, Nourdi.
À vous aussi.
Alors, on a le temps d'accueillir Djamila rapidement. Djamila, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour, Djamila.
Bonjour, maître.
Bonjour, Djamila.
Bonjour à tous, excusez-moi. Je vous appelle, j'ai une petite question concernant une décision du juge. J'ai perdu la garde de mon fils il y a quelques temps, au mois d'avril. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va être trop long. Je voulais juste vous poser la question. En fait, la décision du juge précise que mon fils est hébergé chez moi un mercredi soir ou deux, un week-end sur deux, la moitié des vacances. Et depuis le mois d'avril, donc je le compte sur mes mains, et il a dû passer 5 nuits chez moi, notamment les grandes vacances d'été et les nuits de nuit. Donc à chaque fois, la veille, j'envoie un message pour lui dire je vais interpeller. Non, je vais rester chez mon père.
Enfin, l'enfant a quel âge ?
Il a 12 ans.
Alors, quand on
appelle le papa, il ne répond pas. Et c'est son fils qui me. Enfin,
d'accord.
C'est notre fils qui répond en me disant écoute, c'est plus à peine d'appeler mon père, c'est moi qui ai le téléphone maintenant. J'ai un téléphone et.
Alors, la règle est claire. C'est-à-dire que quand on a 12 ans, les magistrats considèrent que ce n'est pas à l'enfant de décider s'il doit respecter une décision de justice ou pas. Alors, sauf circonstances exceptionnelles, on est si l'enfant parle de violence, par exemple. Mais le caprice d'un enfant n'est pas pris en considération par le magistrat. Donc, votre décision, madame, quand bien même l'enfant dirait, écoutez, moi, j'ai pas envie d'aller voir ma mère, si le jugement a été rendu, vous allez au commissariat du coin et puis c'est une décision qui est exécutoire, c'est-à-dire que on demande pas la réponse positive ou pas de l'enfant.
D'accord. Parce que quand je suis partie au commissariat 2-3 fois pour faire une main courante, je leur ai dit que ouais, c'était pas normal que ce soit lui qui décide. Alors que bon, je vous explique aussi une petite chose, c'est que j'ai eu des preuves en fait que mon enfant est sous aliénation. Je sais pas si c'est le terme aliénation. Du père
prise.
Et de la belle-mère. Voilà, avec preuve, hein, preuve à l'appui. J'ai des copies écran des échanges qu'il a avec sa belle-mère et son père. Et en fait, au commissariat, ils m'ont dit, quand j'ai appelé dernièrement, ils m'ont dit écoutez, c'est pas normal qu'on vous ait demandé de faire une main courante, vous auriez dû venir dès la première fois poser plainte.
Complètement, pour non-présentation d'enfants, ils ont raison.
Ils ont raison.
Bien sûr. C'est pas une main courante, encore une fois, c'est une infraction pour un père, une mère, peu importe, de pas respecter une décision de justice. On appelle ça une non-présentation d'enfant, et donc c'est une plainte qu'il faut déposer. Parce que la main courante, elle ira entre les mains de personne. La plainte, elle ira entre les mains du procureur de la République. Donc
moi,
il faut pas hésiter à le faire.
Voilà. Je vous embête plus, mais juste une chose. J'ai juste peur des conséquences, en fait. Parce que pour que le jugement n'ait pas été dans mon sens, c'est qu'il y a eu mensonge de mon fils, malheureusement. Son papa l'a emmené porter plainte contre moi. Donc, j'ai été en garde à vue. Et à la garde à vue, mon avocat est venu avec, en fait, l'autre dossier. Donc, il a porté plainte.
Alors, madame, ce qu'on va faire, puisque là, on fait des signes, l'émission va s'arrêter.
Oui, et là, on rentre dans une autre partie,
il y a beaucoup de détails.
Oui.
Je vous propose de me contacter éventuellement à partir de midi au numéro suivant 06 62 58 59 64 06 62 58 59 64. Voilà, appelez-moi et puis on prendra le temps d'échanger.
Je vous remercie infiniment.
Merci à vous pour votre appel.
Merci, Jemila, pour votre question. D'autres questions la semaine prochaine, hein, Maître Serran, pour tous ceux
qui
sont impatients de vous parler. Vous avez communiqué votre numéro de portable, hein, vous y répondez tout le week-end, et je sais que... Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, je dis ça, ça sonne.
Oui, ça sonne, mais le principe, c'est quand ça sonne, il faut que vous répondiez.
Oui, mais parce que... tout de suite, je réponds en direct, là.
Oui, allez-y. L'imam Abdelali fait ça très bien. D'ailleurs, l'imam Abdelali Mahmoud, que vous retrouvez dans un instant pour l'islam au présent.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.